Alors je salue, bien sûr, je vous salue vous. Si vous êtes arrivé un petit peu en retard, bienvenue. Vous êtes ici embarqué dans une aventure ce matin. Ça a commencé tôt. On n'avait pas de bouchon pour le gonflage du jacuzzi. Petit détail qui tue. Donc branle-bas de combat ce matin et on remercie Herman et tous ceux qui ont travaillé. On a trouvé une solution, grâce à Dieu. Je salue aussi ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont dans la salle à côté, j'en viens. Et il y a une super ambiance, alors on est avec vous aussi. Et ils sont là pour vous soutenir, hein. Ils sont venus quand même malgré le pass sanitaire. Et donc du coup, c'est chouette, on se réjouit en tout cas de les avoir avec vous. Arlette, tu es là. Cheyenne, tu es là. Johan, lui le premier rang. Alors, vous avez choisi de faire quelque chose de particulier aujourd'hui, un truc bizarre finalement qu'on ne pratique pas au jour d'aujourd'hui. Et du coup, vous avez choisi cette date. Enfin, on l'a choisi ensemble, mais sans savoir tout ce qu'il y avait. Et c'était vraiment une date providentielle. Quand je dis providentielle, ce n'est pas parce qu'on a gagné une heure de sommeil aujourd'hui. Ça, c'est un petit plus. Mais ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas non plus le 31 octobre 473 où le petit-fils de l'empereur byzantin Léon Ier fut proclamé César. Ce n'est pas pour ça qu'on est là ce matin. Alors pourquoi c'est providentiel? Ben moi, j'ai trois bonnes raisons de dire que cette date est providentielle. La première, alors est-ce que je peux avoir la main, s'il vous plaît? Voilà, super. Donc la première, eh bien c'est vers toi, Chayanne, que je me tourne. Parce que le 31 octobre 1986, s'est passé un événement extraordinaire et toute l'église de Genève ce matin rassemblée le sait. C'est que c'est son anniversaire, tout simplement aujourd'hui. Alors, Serge n'est pas là? Mince. Serge s'est absenté quelques instants. C'était le moment où il fallait faire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Chayanne. Joyeux anniversaire. Bravo. Ça fait deux anniversaires à fêter aujourd'hui, on va avoir un beau gâteau. Alors je disais trois raisons, ça c'est la première, c'est l'anniversaire de Chayanne. La deuxième, c'est parce que c'est le jour d'Halloween. Alors vous me dites, mais pourquoi c'est providentiel? Eh bien figurez-vous que je suis allé sur Wikipédia, vous y allez probablement de temps en temps, et j'ai découvert que Halloween, en fait en anglais, c'est une contraction en fait. Au départ, ça voulait dire All Hallows Even. Et ça signifie The Eve of All Hallows Day. Et ça peut se traduire la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. D'accord? Qu'est-ce qu'on fête à la Toussaint depuis le 9e siècle? Ce sont les catholiques qui ont mis ça en place. Ce n'est pas le 31, mais c'est bien sûr le 1er novembre. Donc la veille, en fait, Halloween, c'est la veille de tous les saints et donc c'est la fête des morts. On célèbre les morts, alors vous dites, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ben vous allez voir qu'il y a un rapport en fait. Parce que le baptême, c'est aussi une association à la mort, une identification à la mort de Jésus. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une vraie date providentielle. Et alors, bien sûr, à Genève, on ne pouvait pas l'oublier celle-là, tous ceux qui étudient l'histoire du protestantisme connaissent cette date. Le 31 octobre 1517, qu'est-ce qui s'est passé? Vous, les étudiants de l'IBG, vous avez eu un cours d'histoire. Si celle-là, vous ne la retenez pas, les amis. Alors, j'attends. Et ne regardez pas sur vos téléphones, Google ne vous donnera pas la réponse aussi rapidement. C'est la date de la réforme, oui, la réforme allemande. D'accord? C'est le jour où Monsieur Martin Luther a déposé 95 thèses contre les indulgences. Et dans ces indulgences, je les ai toutes lues cette semaine, il y a l'indulgence, enfin pas l'indulgence parce que ce sont ces thèses, mais la 83e thèse, je vous la lis, ça concerne les morts. Et voici la question. Pourquoi le pape laisse-t-il subsister les services et les anniversaires des morts? Parce que si on prend que la Bible, on ne devrait pas célébrer les morts. Et ce matin, quand je dis qu'il y a un lien avec la mort, oui, mais vous allez voir, pas n'importe quelle mort. On n'est pas en train de célébrer n'importe quelle mort. On va célébrer celle de Jésus. Et vous allez voir que ça fait toute la différence. Alors voilà, ce matin, vous êtes là peut-être pour la première fois. Alors ce que je propose, vous n'aurez pas le choix, de toute façon c'est prévu comme ça, mais ce que je vous propose, c'est de répondre à quatre questions que vous vous posez probablement. En tout cas, quand je discute avec mes amis, ce sont toujours les quatre questions qui reviennent. Voilà les quatre questions qu'on va aborder ce matin. J'en aborde deux tout de suite, ensuite il y a les baptêmes, et ensuite on abordera les deux autres. Alors la première, bien sûr, évident, c'est quoi le baptême? Ensuite, quel est le sens du baptême? D'accord? C'est important de comprendre. Ensuite, pourquoi se font-ils baptiser? On aura eu leur témoignage avant, donc forcément vous aurez une petite idée. Et qu'est-ce que ça va changer à leur vie? Qu'est-ce que le baptême va changer à leur vie? Ça vous va? On part sur ces quatre questions? Allez, c'est chouette. Vous êtes vraiment cool ce matin, hein? J'ai pas des rebelles. Non, j'ai pas envie, je veux un cinquième point. Non, c'est chouette. Merci, je dis chapeau. Alors, si je vous dis baptême, à quoi vous pensez là, tout de suite, comme ça, juste un mot, baptême, vous pensez à quoi? Eau, ouais. Immersion. Mais vous êtes tous chrétiens là. Si on n'est pas chrétien, on pense à quoi quand on pense baptême? Initiation au golf, on appelait ça le baptême, d'accord? Et donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est synonyme de première fois, quelque part, d'intronisation. Moi, je vais même poser le mot bizutage, et vous allez voir que c'est pas si éloigné, finalement, de ce que la Bible enseigne. Bizutage. Bien sûr, vous êtes d'une culture catholique, si vous êtes en Suisse ou en France, et donc, forcément, quand on parle de baptême, on pense toujours nourrisson, hein, qui pleure parce qu'on lui balance de l'eau très froide sur ce que j'ai vécu.
Oui.
En général, c'est ce qui se passe. Alors, c'est ce que j'ai vécu, hein. Quand je suis né, quelques semaines après, on m'a baptisé. Okay.
Il faut mettre ça personnalisé, et puis
pour
buter ça.
Oui. En tout cas, vous avez un privilège,
voilà, c'est
qu'on
a
vécu. C'est pareil pour le grand-père.
Alors,
donc celui-là, c'est pareil.
Je vais vous dire, hein, parce qu'on a la température. Oh, ben là, c'est parfait pour un jacuzzi. 38.
Sortie personnalisée.
38 degrés, c'est pas mal.
Attention à ne pas avoir des doublons de son. Parce que si on l'active, il y aura deux sons qu'on fait. Bah, 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 bah. Donc on va laisser. Il faut laisser qu'un seul, un seul son. Et puis
alors,
celui-là, on va même le virer.
Voilà, en gros, la signification pour ça, c'est plutôt une définition, on va dire, contemporaine. Voici une définition.
Non,
en fait.
Non, on va juste muter.
Il vient du grec, pardon, baptizo. Et ça se compose d'une racine, donc bapto, qui signifie plonger, vous tremper. Quand vous prenez votre tartine dans votre main, vous faites un bapto. D'accord?
Par contre,
tac, une fois, et
lorsqu'on
vous
va mettre ça.
Par contre, il y a le zo, et ça, c'est un.
C'est ah oui, ok, ça va, le son est là.
Et donc
c'est
du
bien.
Coup, on accentue
donc, du coup, ça,
le fait
bon.
De tremper. On trempe profondément.
Ok, donc vous voyez quelque
chose. Et c'était un terme qui était utilisé dans l'antiquité. Hein, et les teintures, on prenait les peaux de bêtes. Et donc, les tannaient et on les plongeait dans des bains pour leur donner une couleur ou des tissus. Et donc, on les laissait pendant plusieurs heures.
Et là,
on va faire ce matin.
Alors, pour le message, on va masquer ça.
Alors, là, je vous pose la question. Comme vous connaissez maintenant la définition littéraire du mot baptiste, est-ce que, à votre avis, ça vous donne une indication sur la forme qu'il devrait avoir? Ça semble évident. Donc la semaine prochaine, voilà. Je sais que
donc,
ici il y a des Suisses, il y a des Français, il y a des gens du Sud. Quand tu vas prendre ta panos, ou ta serpillère,
dans
ou ta vassaille,
tu
vois
les diapos.
Okay.
C'est
bizarre, ça change
la voisin.
Non,
ça change pas.
Non,
la voisin.
Non,
tu vas faire
les règles.
Tu baptises ta
serpillère. C'est cette caméra qui a des.
Finalement, vous baptisez régulièrement des choses.
Ah oui, elle est pas.
Mais c'est ce que ça veut dire. On plonge, on immerge, on submerge. Vous voyez cette idée?
Donc voilà, verrouillé.
Voilà.
Après,
bon,
si on appuie, donc là, on passe au diapo.
Voilà, en gros, donc le baptême, c'est l'acte de plonger dans un liquide. D'accord? Mais c'était. Donc ça, c'est la définition littéraire. Mais on sait que c'est une pratique juive ancestrale. D'accord?
Là, on est bon.
Et donc, chez les juifs.
Donc, du coup, tu vois, quand on est dans le mot de message, on est dans message. Donc, dans les diapos, si tu vas dedans, tu vas voir que la caméra, le message et puis les diapos.
C'était un symbole.
Donc, si tu veux quitter le mot de diapo, tu masques juste celui de la diapo.
D'accord.
Et puis, tu as le master du message.
Parfait.
Donc, c'est en blanc.
La suite de Jean-Baptiste, mais ce ne sera pas un symbole de purification, mais une association. Et je ne vous donne pas tout de suite la réponse. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore pratiqué dans le judaïsme. Alors, on a des mains plus modernes, parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller au Jourdain, à Jérusalem. Et donc, il y a ce qu'on appelle des mikvés, donc c'est des grands bédouins, en gros, des sortes de piscines, où on va se purifier. Et c'est l'entrée, et ça c'est intéressant, c'est que c'est l'entrée d'un non-juif dans la communauté juive. Vous voyez ? Je vous lis la définition d'un exégète, dit « Lorsqu'un individu se convertit au judaïsme, il ou elle doit démontrer par des actions positives son désir de changer de religion. Pour la femme comme pour l'homme, l'immersion dans un bain rituel de Mikvé a été une pratique juive antique. » Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, quand la Bible nous enseigne de pratiquer le baptême, il y a tout un arrière-plan. Qu'on ignore parfois, bah nous on vient, puis nous on s'est servi de la Bible, ça s'appuie sur le passé. C'est aussi une pratique chrétienne historique. Quand Jésus meurt, il va ressusciter, ensuite il va rester 40 jours, et c'est l'ascension. Ensuite c'est la Pentecôte, 10 jours après. Et donc du coup, on voit un enchaînement ici, et tout de suite après le fait qu'il soit monté au ciel, on voit les apôtres, qui sortent de leur terrier quelque part parce qu'ils étaient cloîtrés, et là leur vie est transformée et ils vont vraiment le christianisme. Et donc la bonne parole, la bonne nouvelle de l'évangile, mais associée au baptême. Regardez ce que dit ce texte, Actes chapitre 2, donc c'est le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est un résumé, un concentré historique des 30 premières années de l'histoire de l'Église. C'est dans la Bible. Regardez ce que fait Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ici, on voit une chronologie. D'accord ? On ne commence pas par le baptême et ensuite on croit, mais on croit et ensuite on baptise. Regardez, j'ai mis les numéros avec ces couleurs pour que vous puissiez identifier. C'est exactement le même texte. Regardez, première étape, repentez-vous, et ensuite que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole, donc première étape, furent baptisés. Deuxième étape. Et voyez, c'est toujours en conséquence d'eux. Donc, le baptême biblique, alors je dis un texte, on a bien sûr beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament, donc c'est une conséquence de la foi. Parce que le terme « repentez-vous », c'est un changement de mentalité.
On se... vision de Dieu, une vision du monde, et on la change, justement, on prend celle de Dieu. Et donc, on repère qui on est, et il nous le dit, on confesse qui est Jésus. C'est ce qu'il dit dans « repentez-vous ». C'est-à-dire, il y a un acte de contrition, revenez sur vos anciennes pensées, regardez maintenant les choses de manière différente. Et donc, il y a la repentance, et on voit ceux qui acceptèrent sa parole. Accepter, c'est prêter foi, faire confiance. D'accord ? Donc, ceux qui acceptèrent sa parole, quand on accepte sa parole, la foi, donc dans le Nouveau Testament, dans la Bible, c'est le fait de croire Dieu sur parole. Ce n'est pas simplement de croire en Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, et ça ne fait pas d'eux des disciples de Jésus. Même le diable, il croit en Dieu. Il croit qu'il y a même un seul Dieu, le diable. C'est la Bible qui nous le dit. Ce n'est pas le fait de croire en quelqu'un. C'est le fait de le croire lui et de lui faire confiance. C'est croire Dieu sur parole. Et c'est ce qu'on fait, nos baptisés. Et donc, C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième étape pour vous ce matin. Il y a eu la repentance, moi j'ai pu l'observer, vraiment, hein, au travers de toi Johan, au travers de toi Arlette, au travers de toi Cheyenne. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont devenus parfaits, les trois? Non. Alors je ne vais pas le dire, je pense que vous le direz suffisamment vous, tout seul. Mais ils ne sont pas devenus parfaits, on ne baptise pas des gens parfaits, on baptise des disciples, c'est-à-dire des apprentis, des gens qui sont en chemin, qui découvrent la foi et qui veulent approfondir leur foi jour après jour. Laissez-moi vous donner une petite illustration de ça. Je me souviens de la première fois où j'ai appris à nager. Alors, on allait à la piscine avec mes parents et ils nous mettaient toujours des bouées, vous savez, des bouées, des brassards, et puis on avait une ceinture aussi, à l'époque, hein, il y a plus de 40 ans. Et donc, du coup, je me souviens qu'on allait à la piscine avec la maman, mais on ne savait pas nager, on faisait les petits chiens, quoi, en gros. Et puis, un jour, mes parents ont décidé qu'on apprenne à nager. Et donc, on est allé voir le maître nageur, et il nous dit, il n'y a pas de souci, je les prends dans 10 minutes. Ok, 10 minutes après, on arrive avec nos bouées et tout, et il fait « Ah non, non, si vous voulez apprendre à nager, vous enlevez vos bouées. » Ah, tac, on enlève toutes les bouées, tu vas avancer sur le plongeoir. Oh, on reste pas au bord? Non, non, tu vas avancer sur le plongeoir. Le plongeoir, il devait faire 2 mètres, donc vous imaginez. Et il allait dire « Bah, maintenant tu sautes. » Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Franchement. Si je saute, je meurs. C'est clair, je ne sais pas nager. En plus, il y avait 2,50 m d'eau, hein, donc c'est clair que j'allais mourir. Eh bien, j'ai sauté. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais confiance au maître nageur. S'il me dit de sauter et qu'il est le maître nageur, ça veut dire que lui, il maîtrise la nage. D'accord? On ne l'appelle pas maître nageur pour rien. Hein, il sait nager, en général, et donc apprendre à nager aux autres. Et donc, me voilà parti dans l'eau. Je saute, et qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas nager? On panique! Et donc c'était la panique, comme n'importe quel débutant dans l'eau, je me débattais, et je voyais le maître nageur les bras croisés qui me regardait. Et il faisait rien. Et j'ai dit non mais c'est pas vrai. Ah, c'est la panique totale là. On n'a pas le bord pour se raccrocher, on n'a plus rien. Et il m'a laissé me fatiguer. Il a attendu que je sois épuisé et que je puisse plus vraiment me débattre. Et là, il m'a tendu une perche, comme la perche que vous voyez à l'écran. Il m'a tendu une longue perche. Et à votre avis, est-ce que j'ai dit « Oh non, moi je ne crois pas en la perche ». C'est là où j'ai vu que j'avais la foi, c'est que j'ai saisi quelque part cette perche. Eh bien, Dieu, il fait exactement la même chose quand on vient à lui. Il attend qu'on se débatte, qu'on arrive au point qu'on constate qu'on n'a aucune solution par rapport à notre salut. On se débat, on trouve tous des assurances. Hein, bah parfois c'est une assurance concrète, c'est la sécurité sociale, c'est quelques euros francs suisses à la banque sur un compte. Hein, on se met des petites assurances. Eh bien Dieu, il attend qu'on s'appuie plus sur ces choses. Il nous laisse et c'est là où il vient nous chercher. Parce que finalement, on constate que c'est lui qui a la solution. Il faut qu'on arrive à ce constat. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils sont arrivés à ce constat. Il n'y avait plus de solution. Et donc, ils ont saisi par la foi la perche que Dieu leur tendait. Et devinez qui tenait cette perche. C'était Jésus. Jésus était là. Et il est allé les chercher. Mais ils ont dû faire cet acte de foi. Et en fait, c'est ça le salut. Et c'est ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont saisi par la foi. C'est pour ça que ce n'est pas des gens parfaits. Ce sont des gens qui ont compris qu'ils étaient perdus. Et qui ont saisi simplement par la foi le bras tendu de Dieu, la perche qu'il nous tendait en Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Donc je disais 4 points. Une pratique chrétienne historique, mais aussi un acte d'obéissance. Juste avant son ascension dans le ciel, Jésus va donner une ultime consigne à ses disciples. Et là, le baptême est compris dans le package. Alors, on a vu que c'était une pratique historique, mais là, on voit l'origine, le mandat qui est donné aux apôtres et donc à l'Église qui va la suivre. Matthieu chapitre 28, donc c'est dans un évangile, Saint Matthieu, si vous préférez. Juste avant son... Alors, pardon. Allez, faites de toutes les nations des disciples, d'accord? Donc ça c'est l'objectif de l'Église, faire des disciples. façonner des disciples, former des disciples. En fait, il n'y a qu'un mot en grec, c'est même pas faire des disciples, mais c'est discipuler. Donc d'ailleurs, on n'a pas ce mot en français. Mais du coup, c'est l'idée de construire, d'édifier, de faire des disciples, et première des choses, baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. On doit enseigner les gens à obéir à la parole de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est un enseignement qui dure toute la vie, quelque part, parce que l'obéissance, elle n'est pas parfaite du jour au lendemain, et donc elle va durer tout au long de la vie. Et donc, il nous assure qu'il sera là tous les jours, avec nous, jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez que le baptême fait partie de l'ordre de mission qui est donné aux apôtres, et donc, par la suite, donné à l'Église, jusqu'à la fin du monde, c'est ce que dit le texte. Et donc, on n'est pas encore à la fin du monde, en tout cas, je n'ai pas constaté, si vous êtes là, non plus. Donc, ça veut dire que ce commandement perdure encore aujourd'hui. Voilà, on a répondu à la première question, on va répondre à la deuxième un peu plus rapidement. Quel est le sens du baptême ? Alors, il y a un texte qui résume vraiment bien le sens du baptême. On ne parle pas directement ici dans ce texte du baptême d'eau, mais c'est du baptême du Saint-Esprit, mais vous allez voir qu'il fait des ponts avec le baptême d'eau qui semble évident. Je lis le texte, c'est donc l'apôtre Paul qui écrit ça aux Romains. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Et tout est dans le texte, tout est là en substance. Quand je vous disais tout à l'heure, qui avait un lien avec la mort et Halloween le 31 octobre, vous l'avez là la réponse. Elle est ici. Il y a un lien avec la mort de Jésus-Christ. Je vous lis un commentateur contemporain qui s'appelle Wayne Grudem, il dit « Quand le candidat au baptême descend dans l'eau, c'est une image de sa descente dans la tombe et de son ensevelissement. Quand il sort de l'eau, c'est une image de sa résurrection avec le Christ afin de mener une nouvelle vie. » Le baptême est donc une image très claire de la mort du croyant à son ancien style de vie et de sa résurrection en vue d'une vie nouvelle en Christ. Tout est dit, tout est dit. Le baptême, c'est une identification avec la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui est plongé dans l'eau s'identifie avec la mort de Jésus-Christ. Hein, l'immersion, ça représente la mort à son ancienne vie sans Dieu. Et le fait de revenir en dehors de l'eau à la surface, hein, c'est ce qui se passe normalement lors des baptêmes, c'est ce que je vous souhaite. Eh bien, quand on sort de l'eau, on est encore vivant, et là, on ressuscite à une vie nouvelle. Désormais, alors normalement, vous devriez vraiment mourir. Hein, donc vous voyez, c'est un privilège, on vous laisse en vie là ce matin. Mais c'est un symbole, on est d'accord, hein, c'est un symbole, donc il ne faut pas prendre chaque détail. Mais désormais, à partir du moment où on a fait ce choix de suivre Jésus, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Et donc, on va ressusciter à une nouvelle vie, et là, on va intégrer Dieu dans notre vie. En réalité, c'est lui qui nous intègre dans la sienne. Mais voilà, de notre perspective, c'est un petit peu ce qui se passe. En fait, c'est la définition même d'un disciple. Il vit plus pour lui, mais pour celui qui est mort ressuscité. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui est en apprentissage et qui, tout au long de sa vie, va mettre en pratique la Bible, la parole de Dieu. Ça, c'est la définition du disciple. Donc, tu, vous, ne vous appartenez plus ce matin. Et je pense que vous l'avez réalisé, hein, Johan, Arlette et Cheyenne. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à quelqu'un d'autre. À un maître, à celui qui vous a sauvé. Quelque part, si je reprends l'image du maître nageur, vous appartenez au maître nageur maintenant. Parce qu'en fait, vous étiez perdu, il est venu vous chercher, il vous a récupéré. Et donc, vous lui appartenez maintenant. Mais la différence, c'est que vous avez fait un choix de le suivre, volontairement, d'accord ? C'est pas simplement « je suis perdu », non, je veux le suivre. Et ça, c'est l'autre démarche. Donc, finalement, si on résume, le baptême, c'est la manifestation extérieure d'une réalité intérieure ou la manifestation physique d'une réalité spirituelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé dans leur cœur et donc nous, on est simplement observateurs et donc là, ils vont faire quelque chose pour traduire extérieurement ce qui s'est passé dans leur vie. Et enfin, Le baptême symbolise l'intronisation à l'Église, l'intronisation officielle publique du croyant dans l'Église. Je ne vais pas m'étendre ici parce que je vais rentrer plus dans le détail, mais voilà en gros le symbole du baptême. Je vais finir de répondre aux quatre questions. On a déjà abordé les deux premières. Et donc maintenant, il va y avoir les deux autres. Vous vous souvenez de la troisième question, pour ceux qui ont la mémoire visuelle, qui s'est écrit, pourquoi se font-ils et tels baptisés ? L'image va arriver dans quelques instants, mais en tout cas, je peux vous donner déjà la première raison, c'est qu'ils ont saisi l'amour de Jésus et désirent obéir à ses commandements. Je crois que c'était clair, en tout cas dans ce qu'ils ont annoncé. Ils ont saisi cet amour de Jésus, la perche qui leur a tendue, alors qu'ils ne méritaient rien, on vient juste de le chanter. On a reconnu notre indignité quelque part devant Dieu, on n'est pas digne de lui, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à ses exigences. Et en fait, c'est le but, c'est de le constater, pas de l'être, mais du coup, quand on le constate, on devient un disciple, un apprenti, et on va marcher à la suite de Jésus. Vous savez qu'il y a un homme qui s'appelle Saul dans la Bible, et ce Saul, il était persécuteur des chrétiens. Il les faisait enfermer en prison, parfois il commanditait leur assassinat. Et cet homme-là, qui donc était à fond contre le christianisme, eh bien il a changé d'avis à un moment donné, c'est l'apôtre Paul. Et cet homme qui persécutait les chrétiens, son nom est différent après, il s'appelle Paul. Alors, il est passé de Saul à Paul, on va dire que Saul c'était le persécuteur, même si c'est pas juste, mais on va le dire pour nous. Mais Paul a changé d'avis, et regardez ce qu'il dit dans son épître qu'il envoie aux Corinthiens. Il dit « En effet, l'amour du Christ nous étreint, nous presse. » Imaginez un tube de dentifrice, vous appuyez dessus et ça sort comme ça, c'est sous pression. « Cet amour du Christ nous presse, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. » Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ce matin, vous avez manifesté cette mort à vous-même en allant dans l'eau. Vous avez dit, voilà, je meurs à mon ancienne vie et je ressuscite à une vie nouvelle. Et du coup, maintenant, vous ne vivez plus pour vous-même. Et je pense et j'espère que vous qui êtes déjà baptisé, si vous l'avez oublié, c'est un bon rappel pour vous. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous avez été baptisé qu'il faut oublier pour qui vous vivez. Parce qu'on rentre dans une routine et finalement, le croyant, tout croyant dans cette église devrait plus vivre pour lui-même, mais pour vivre celui qui est pour qui Jésus, donc vive pour lui, celui qui est mort et ressuscité pour vous. Il est mort pour pardonner notre péché. Et donc c'est ça, c'est quand on reconnaît que Jésus est mort pour notre péché personnellement, et bien là, à partir de ce moment-là, on peut être réconcilié avec Dieu. C'est une reconnaissance. Si on confesse de la bouche le Seigneur Jésus et si on croit dans notre cœur, Dieu nous sauve. Vous voyez, Dieu nous sauve, il nous impute sa justice. C'est lui qui nous la donne. Et donc, vous, c'est simplement de la réponse. On n'a rien à faire quelque part. C'est pour ça que chez les évangéliques, on dit le salut est gratuit. C'est qu'on le reçoit gratuitement. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en fait rien ? Ben non. Bien sûr, c'est avant. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a saisi ce message, cet amour de Dieu, ça doit changer quelque chose. Et ça change quoi ? Eh bien, c'est que maintenant, je vais être au service de Dieu et au service des gens avec qui je me suis identifié, donc l'Église. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que vous désirez, par votre geste, vous identifier à la famille de Dieu. C'est ce que vous avez fait ce matin. Quelque part, vous avez annoncé publiquement « Je n'ai pas honte de faire partie des membres du corps de Christ ». Ou plus positivement, je suis fier de faire partie de cette nouvelle famille. Et c'est la Bible qui dit, 1 Corinthiens 12, vous avez le texte sous vos yeux, « Nous avons été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, travaillant dans la sécurité ou en tant qu'instituteurs, etc. etc. » Dieu n'est pas venu finalement pour mourir pour moi tout seul, individuellement. En fait, il est venu pour mourir pour son Église, pour un peuple, pour racheter un peuple, et donc pas un individu, mais des individus. Et donc, vous l'étiez déjà, membre de cette famille, parce que la conversion est indépendante de l'Église, mais à partir du moment où vous convertissez, vous reconnaissez qui est Jésus. Et si vous reconnaissez qui est Jésus, alors vous devez accepter sa famille à lui. Et finalement, tous ceux qui croient en Jésus font partie de la même famille. Jésus devient votre frère, mais c'est aussi le frère de tous ceux qui sont dans l'Église. Dieu le Père, ça reste votre Père spirituel, mais c'est aussi le nôtre. Et voyez, donc, quand vous faites baptiser, vous vous identifiez au corps de Christ et donc à sa grande famille. Finalement, Dieu va niveler au travers du baptême toutes nos différences. Il va gommer nos appartenances raciales, culturelles ou sociales, tout ce qui pourrait demeurer et nous éloigner finalement des uns des autres. Et c'est ça qui est étrange. On est unis dans une famille où franchement, il y a absolument, je ne vais pas dire rien, mais pas grand-chose qui nous unirait en dehors de Jésus. On vient de milieux tellement différents, avec des âges différents, des éducations différentes, que si on est là aujourd'hui et qu'on arrive à s'entendre, c'est un vrai miracle. Et c'est ça l'Église. La véritable Église de Jésus, c'est un miracle. Alors si je peux me permettre ce parallèle, je ne sais pas si vous avez été à l'armée, en tout cas pour les hommes, en tout cas en France c'est comme ça, eh bien, le baptême, c'est un peu... Le baptême est à l'Église ce que la tonte des cheveux est à l'armée. Alors c'est une pratique assez étrange, hein, au premier abord. Moi je me souviens, la première fois que j'ai dû passer là, en fait on fait la queue, et puis il y a quelqu'un avec une tondeuse, et qu'on ait les cheveux frisés, courts, longs, on passe tous, sans exception. Et finalement, c'est une sorte de rituel de passage dans l'armée. À partir du moment où tout le monde a eu la même coupe, on ne peut plus se distinguer. Tiens, lui, c'est un riche avec des cheveux soyeux qui ont été teintés bien. Non, non. Un coup de tondeuse peut te dire que tes cheveux, tu ressembles à rien. On ressemble tous à des rats morts, hein, c'est clair, il faut le dire. Mais c'est voulu, en fait. On passe tous par ce même rythme pour justement niveler. Il n'y a plus de différence entre l'ouvrier et le fils à papa. Vous voyez, dans l'armée, finalement, ce geste-là va niveler. Et c'est un petit peu ce que fait le baptême. C'est quel que soit notre arrière-plan, que tu sois PDG d'une multinationale ou bien ouvrier à la chaîne dans une entreprise, on passe tous par le même rythme. Le même rite, pas le même rythme, mais tous le même rite de passage. Et c'est ce que fait finalement le baptême. Ça ne fait pas de nous un membre de la famille de Dieu, parce que seule la foi a ce pouvoir, mais le baptême atteste de notre désir de nous identifier, de servir nos nouveaux frères et sœurs pour qu'on vive plus égoïstement. Hein, on a dit qu'on ne voulait plus vivre pour nous-mêmes. Donc à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le choix, les amis. Vous l'avez dit devant tout le monde, je veux être au service de mes frères et de mes sœurs. D'accord ? Et vous avez l'opportunité de le faire. Et c'est ce qui va changer quelque part, c'est la quatrième question à laquelle je réponds très rapidement. Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, la première des choses, c'est qu'après votre baptême, vous êtes mouillé. Vous l'avez constaté ? Vous êtes mouillé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que là, vous vous êtes vraiment engagé devant les autres. Vous êtes toujours imparfait, on l'a dit, l'eau ne vous a pas purifié. Hein, là, par contre, on a une belle distinction avec l'Église catholique, où quand on plonge, voilà, on est purifié. Et là, ce n'est pas le cas, parce que vous étiez déjà pur aux yeux de Dieu. Quand je dis vous êtes déjà pur, ben oui, parce que vous vous êtes placé sous la tutelle de Christ. Vous avez reconnu qu'il était mort et ressuscité pour vous. Donc du coup, quand Dieu vous regarde, vous n'êtes plus sous sa colère, parce qu'il vous regarde au travers du sacrifice de son Fils qui lui est parfait. Donc à partir de ce moment-là, Dieu vous regarde comme ça. Donc vous êtes saint, vous êtes pur. En fait, il voit Jésus au travers de vous. Eh bien, tout le défi de la vie chrétienne, ça va être justement d'aligner ce que vous êtes devenu en Christ avec ce que vous êtes dans la réalité. Donc vous êtes imparfait, mais vous allez travailler jour après jour, c'est ce que la Bible appelle la sanctification, et à devenir comme Jésus. Vous connaissez ce texte dans Galates où il parle du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que ça produit l'esprit en nous ? Parce que vous avez le Saint-Esprit maintenant, vous n'êtes plus tout seul. Le Saint-Esprit vous accompagne, il n'est pas seulement avec vous, il est en vous. Et vous allez développer ces 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Il y en a d'autres, mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Franchement, je connais personne qui ne voudrait pas développer ça dans sa vie. Qu'on soit croyant ou non croyant, on aimerait être comme ça. Eh bien, si vous restez fidèlement attaché à Jésus, que vous désirez le suivre, que vous vous mettez au service des autres, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors vous allez développer le fruit de l'esprit. Vous allez développer ces caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc ça veut dire que vous êtes toujours imparfait, mais vous êtes en rénovation. Dieu est en train, est en chantier en vous. Et donc, ne vous étonnez pas s'ils ont encore des accès de colère, s'ils gaffent, si peut-être ça peut arriver qu'ils mentent. Ils ne sont pas parfaits. On le sait, mais nous non plus. Et c'est là où on dépend de la grâce de Dieu, la grâce merveilleuse de Dieu. Et le dernier point, c'est qu'après le baptême, eh bien, ils vont connaître la joie. Ah non, c'est pas, il y en a encore un troisième. La joie d'avoir obéi à Jésus. Le baptême, ça, je l'ai dit, ça ne confère rien de magique, mais c'est quand même une bénédiction qui procure de la joie. Et c'est la joie de l'obéissance. En fait, un chrétien trouve la joie dans l'application de la parole de Dieu. Dieu lui met une joie particulière. Et il nous l'avait promis, Jean chapitre 15. Regardez ce texte, c'est un de mes préférés de la Bible. C'est Jean qui dit ça. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dieu veut que tous les humains, en tout cas tous ses enfants, soient joyeux. Et comment ils sont joyeux ? En appliquant sa parole, en obéissant à ses commandements, c'est ce qu'il dit ici. On demeure dans l'amour de Dieu quand on obéit à sa parole. Et en fait, c'est vraiment le désir de Dieu, et c'est ce que je vous souhaite à tous les trois. C'est que vous désiriez appliquer la parole de Dieu et que vous ressentiez cette joie profonde de l'obéissance. Vous avez commencé ce matin, vous avez fait une étape importante, mais c'est pas la fin, d'accord, c'est que le début. Donc je vous encourage, et les autres aussi du coup qui écoutent, à vous mettre au service de la communauté et aussi du monde qui nous entoure. Et dernier point, après le baptême, eh bien ils auront la possibilité de devenir membres de l'EEIG. C'est une des conditions. Vous voyez ? Bah parce que comme c'est quand même le premier commandement qui vient tout de suite après la conversion, ça serait quand même bête de dire on fait une église, mais il n'y a que des gens convertis. Vous voyez ? Attends, montre au moins que tu obéis à un commandement. D'accord ? C'est le premier. Tu le fais ou pas ? Et donc quand on ne se fait pas baptiser, les amis, quelque part, on est rebelle. Rebelle et on est désobéissant à l'ordre que Dieu nous a donné. Et du coup, eh bien, le premier signe de notre obéissance, c'est le baptême. Et donc, dans notre, je sais pas comment on appelle ça, le document officiel, c'est un règlement intérieur, ça c'est un des aspects, je ne sais plus comment ça s'appelle, la constitution. Voilà, la constitution, donc c'est les documents officiels, eh bien c'est un peu comme quand vous allez à la mairie avec monsieur le maire, d'accord ? Du coup, on s'aime, mais on veut le ratifier. Vous voyez, on veut sceller notre alliance. Et bien, c'est ce que vous faites. Quand on vient dans l'église, dans l'EIG, on ratifie votre alliance. Donc, vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, devenir membre. Ce n'est pas une obligation, vous voyez, on ne vous impose pas ça. Mais ça veut dire que, comme le baptême, c'est un désir du cœur, on vous acceptera si vous le faites. Vous êtes témoins, les frères et les sœurs de l'église ? Ouais. Vous attestez qu'ils peuvent rentrer avec nous ? Ouais. Alors peut-être qu'à la prochaine, si vous en faites la demande, eh bien on vous accueillera en tant que membre de l'Église. C'est un privilège. C'est un privilège.